Caravana da Maximum.
Je me fous du
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil. Vive
les oreilles.
Vive.
Bonjour, vous écoutez Les Oreilles Libres sur Radio Libertaire. Aujourd'hui, une émission consacrée au cinéma et tout particulièrement à l'édition DVD. Une émission en deux parties. Alors tout d'abord, consacrée à la sortie de Pour Clémence, réalisée par Charles Belmont en 1977. Le DVD sort aux éditions de l'Éclaireur. Et ensuite, nous parlerons avec Brice Gravel des Mutins de Pangée, coopérative de production, de distribution et d'édition DVD, qui propose également une plateforme VOD Cinémutin. Pour débuter l'émission, nous avons écouté la musique de Pour Clémence de Michel Portal, Jean Schwartz et Jean-François Jenny Clark. Grâce à Jean Schwartz, nous écouterons plusieurs morceaux inédits, c'est-à-dire jamais édités du film. Avec Derek Wolfenden, nous avons interviewé la co-scénariste, monteuse et éditrice de Pour Clémence, Marielle Isartel, une habituée de l'émission. On l'a reçue à de nombreuses reprises, notamment pour Histoire d'A, qu'elle a co-réalisé avec Charles Belmont. Marielle Isartel était la monteuse et compagne de Charles Belmont. Elle a co-scénarisé et monté donc Pour Clémence en 1977. Pour commencer l'entretien, Marielle va nous présenter Charles Belmont.
Donc, qui était Charles Belmont ? D'abord un jeune comédien, issu d'un milieu très populaire, un milieu juif, venu de Lettonie. Lui est né en France, mais ses parents étaient nés en Lettonie, et dont le père a été assassiné à Auschwitz. Et forcément, et lui, il a été pupille de la nation, il a vécu en banlieue tout le temps. Il a évidemment il était né en 36, donc il a passé la guerre dans des conditions très difficiles, parce que même quand on n'a pas été tué par le nazisme, avec l'aide des Français, l'administration française, on était quand même toujours en train d'avoir peur, quoi. Donc lui, il a ensuite été tailleur... tailleur dans un atelier, un petit peu comme Jean-Claude Grimbert, si vous connaissez la pièce L'Atelier de Jean-Claude Grimbert, c'est vraiment ça qu'il a vécu, sauf que lui voulait dire des beaux textes. Donc il a dit à sa mère qu'il ne voulait plus travailler comme ça, qu'il voulait dire des beaux textes, et il a été suivre des cours d'art dramatique, d'abord à Courbevoie où il vivait, puis au cours Simon, et au cours Simon il a rencontré Samy Fray et une personne qui s'appelle Jacques Grand-Claude, qui est devenu producteur par la suite, et ils ont été inséparables, un trio inséparable pendant plusieurs années. Donc Samy Fray, on le retrouve dans deux de ses films. Il voulait, alors finalement, il est devenu acteur après 30 mois de service militaire, il est devenu acteur chez Chabrol, avec un premier rôle tout de suite, dans Les Godelureaux, un film qui n'avait pas de succès, mais Charles a eu du succès, et il est devenu le jeune premier. D'abord, il était très beau, ensuite, moi, je trouve qu'il était très bon aussi par son espèce de sincérité, quoi, et d'énergie qu'il dégageait. Et il a été pris par le cinéma commercial, donc il a fait plusieurs films, mais au fond, ça l'intéressait pas du tout. Et finalement, sur son dernier film, je crois, qui était un De Coin, avec Eddie Constantine, le producteur Michelin, qui avait acheté les droits de l'écume des jours de Boris Vian, qui est un roman qui n'était pas encore connu à l'époque, Charles a accepté d'adapter l'écume des jours et de se lancer dans ce long métrage, qui était quand même extrêmement périlleux, puisque c'est un livre qui n'est pas du tout réaliste. Donc il a voulu s'essayer à un court-métrage pour voir s'il était capable ou pas de tourner. D'après Michelin, le producteur, quand il était acteur, il était tout le temps en train de regarder partout, de s'imprégner de ce qui se passait. Il n'était pas dans sa loge à faire je ne sais pas quoi. Il cherchait à être doublure lumière pour comprendre les lumières, enfin tout ça. Donc il était très très habité de ce faire. Et il a commencé, pour s'éprouver, je disais donc, de faire une adaptation de Kafka à un court-métrage infratricide. C'est une nouvelle. Et là aussi, comme on verra plus tard pour L'écume des jours, c'est vraiment très, très adapté. Et il connaissait très bien la danse. Et il a engagé le danseur Babilé, puisque c'était un rôle presque muet. Il fallait quelqu'un qui puisse habiter l'espace, quoi. C'est pas danser. Et donc, L'écume des jours sort en avril 68, où donc tout de suite, ça s'arrête. Il n'y a plus la carrière. Ça a été, les critiques étaient à ce moment-là partagées entre les gens qui trouvaient que c'était une trahison et ceux qui trouvaient que c'était trop adapté, trop peu adapté. Mais enfin, ça, c'était une erreur, puisque c'est très adapté. C'est Bory qui a fait une critique en disant « Mais enfin, c'est pas possible, c'est entièrement le livre. Pourquoi faire un film pour faire entièrement le livre et tout ?» Donc, le producteur a pris un café avec Bory. Il lui a dit « Mais vous l'avez relu, le livre ?» Ah, mais il dit « Non. » Il dit « Parce qu'il y a une scène du livre, hein, mais tout le reste, c'est adapté. » Bien sûr, il y a plein d'octels, il y a les personnages, mais c'est pas du... Ah, et Bory était confus, il s'est excusé auprès de Charles, et c'était en plus la première critique qui sortait, donc c'était pas terrible. Mais enfin, il y a eu des débats, on va dire, sur ce film, qui a été beaucoup mieux accepté un peu plus tard, quand il est ressorti en 94, où là, c'était quasiment unanime. Et il y a 68 qui a arrêté les projections. On s'est beaucoup impliqué dans 68. Moi, j'étais déjà militante avant, de toute façon. Donc j'ai continué. Ensuite, sa mère est morte et comme un cri, il a écrit RAC. Comme un cri, vraiment. Et comme un cri par rapport à la douleur de perdre sa mère, qu'il aimait vraiment beaucoup. Et aussi par rapport à la médecine telle qu'elle fonctionne. Et aussi par rapport à comment la maladie peut être prise comme un langage, quoi, en fait. On était très grodeckiens à l'époque, et donc on pensait que la maladie, c'était vraiment l'expression d'un mal-être, mais moi, je le pense toujours, mais en ayant complexifié ma pensée, disons, et lui aussi, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs, dont celui-là. Et RAC est donc un film écrit un peu comme pour Clément, c'est-à-dire à partir d'un sentiment profond écrit à la première personne, et ensuite, travail de documentation, de réflexion, d'analyse pour en faire un film qui soit à la fois basé sur l'intime et qui soit donc avec des sentiments très forts et qui soit aussi propre à la réflexion, quoi. Et donc, dans les deux cas, c'est le même, la même démarche, et ça donne des films non chronologiques, finalement. Parce que ça part de sentiments qui ne se vivent pas de façon chronologique. On n'a pas une ligne à l'intérieur de nous qui fait petit A, petit B. Et donc, Rack a été apprécié, pas assez pour vraiment se couvrir. Bon, en plus, Charles a fait un truc de rebelle complètement idiot. C'est-à-dire qu'il était prévu qu'il sorte avant le Festival de Cannes, et puis il a été présenté pour être sélection officielle. Et il ne fallait pas qu'il le sorte. Et Charles a dit, non, mais moi, je m'en fous, moi, je le sors. Voilà, ce qui est complètement idiot. Peut-être que sa carrière aurait été beaucoup plus facile si, à ce moment-là, il n'avait pas décidé de faire sa mauvaise tête, quoi. Bon, après Rack, donc, on était liés à un mouvement de médecins, thérapeutes, militants qui remettaient en cause la médecine du capital, on va dire, pour faire vite, sans s'occuper trop de la partie psychologique qui nous tenait à cœur. Et ce mouvement, le groupe Information Santé, a lancé un mouvement de désobéissance civile par rapport à l'avortement, et il a eu déjà moult émissions sur Radio Libertaire, sur Histoire d'A, le film qui en est sorti et qui lui-même a redoublé la désobéissance civile, puisque totalement interdit, on l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup montré. C'était donc le troisième film. Et est arrivé ensuite pour Clémence. Donc un film de fiction. Ça veut dire que Histoire d'A était le premier film documentaire, le premier film en 16, le premier film en noir et blanc. Et avec pour Clémence, là, il revient au 35 couleurs. L'écume des jours étant en scope. Je dis ça parce qu'après, il a eu des bêta SP, enfin, il a eu plusieurs sortes de supports, de conditions de production, de genre, de mélange des genres, etc. Et celui-là, pour Clémence, donc, a été écrit en 76 et sorti en 77.
On vient d'écouter un des morceaux inédits de la musique de Pour Clémence par Michel Portal, Jean Schwartz et Jean-François Génie-Clark. Pour Clémence, c'est l'histoire d'un ingénieur aéronautique quarantenaire passionné par son métier, qui choisit néanmoins un chômage bien indemnisé en guise d'année sabbatique.
Donc du coup, tu as co-réalisé et tu as monté donc Histoire d'A, et pour Clémence, tu as co-écrit avec Charles Belmont et tu as monté ensuite le film. Et du coup, c'est particulier parce que c'est rare que le monteur d'un film participe au scénario. Il y a toujours une sorte de alors pas de fantasme, mais d'une réalité concrète, d'avoir le plus de recul sur la matière, parce que le réalisateur ne peut pas se le permettre pour vulgariser la donnée. Et je me dis que voilà, comment tu as déjà, quelle est ta participation concrète au film, et ensuite comment tu as réussi à reprendre du recul sur cette matière à laquelle tu étais quand même partie prenante, quoi.
C'est intéressant ça, parce que justement moi je pense qu'il y a beaucoup il y a beaucoup à voir entre la phase d'écriture et la phase de montage. Et entre, il y a l'éclatement du tournage. Robin Campillo, il a travaillé avec Cantet aussi au scénario et au montage de je ne sais plus quel film. Il y a des cas comme ça. Mais moi, c'est le tournage auquel je ne veux pas participer. Parce que je ne veux pas, là, pour le coup, être influencé, parasité par ce qui se passe sur le tournage. Bon, il se trouve que celui-là s'est particulièrement bien passé, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais je ne veux pas voir 10 fois la même scène jouée, je ne veux pas voir tout ça. Entre le scénario auquel j'ai participé, parce que Charles me l'a demandé sur un projet qui était le sien, sur une envie qui était la sienne, et le montage, il y a le moment où le scénario prend forme et où je le découvre en salle de rush, enfin salle de projection, et là je découvre tout l'apport, vraiment un apport particulier dans ce film du tournage. C'est-à-dire que dans certains cas, parce que j'ai monté quand même beaucoup de films, le scénario il est bien tourné ou mal tourné, mais enfin s'il est bien tourné, il devient à peu près la même chose, quoi, bien incarné, bien. Mais là, il apportait par la mise en scène des choses que je découvrais et il portait à un autre niveau. Par exemple, le travail de la caméra qui est toujours en train de bousculer le mec qui est dans sa première journée, puis ensuite ses autres journées de chômage choisies. Ça, c'était pas écrit comme ça, puisque aucune indication de caméra n'était écrite. Mais il prenait un mot, là c'était par exemple planté, puis la caméra le bouscule, et la musique aussi le bouscule. Et c'est comme s'il y avait le regard de la société, un petit peu jugeant, qui le bousculait, le héros, et il regarde, il jette des petits coups d'œil comme ça de côté parfois. Et tout ça, c'était des apports qui étaient vraiment du tournage. Et moi, je trouvais ça vraiment. Très fort déjà, enfin bon, moi ça me plaisait énormément. Mais le fait d'avoir écrit ne change rien à la vision du film, je sais pas comment dire, sauf si c'était des grosses trahisons, mais ça pouvait pas être le cas en l'occurrence. Non, j'ai pas de parasitage du montage par rapport à l'écriture du tout, c'est seulement le tournage qui peut parasiter. Et Charles, et comme d'autres réalisateurs, était très très. Il attendait vraiment la réaction quand je voyais pour la première fois une scène, parce que on ne la voit jamais deux fois, quoi, la première fois. La première fois, c'est la première, et l'impression qu'on a, elle est précieuse. Et quand on a vu tout le tournage, c'est pas pareil. Donc c'est très important pour moi de rester hors du tournage. D'abord, en plus, moi, j'aime pas les tournages. Tout le monde doit être poli avec tout le monde tout le temps. Je suis une femme de cabinet. Mais donc, je sortais de mon cabinet d'écriture à mon cabinet de montage avec un lien que j'ai essayé d'expliquer aux étudiants quand j'ai enseigné à Paris 8 dans un module, je sais pas comment ça s'appelait déjà, qui était lien entre l'écriture du scénario et le montage. C'est que c'est vraiment deux opérations parallèles, enfin, cousines.
Je t'ai devenu prêt à accepter n'importe quel boulot, même ignoble. Le type qui m'a reçu cet après-midi était loin d'être débile. Tout quand il disait « faisons respirer cette usine », plutôt le département pilote, prudent. Quel est le plus sûr moyen pour une boîte d'éviter l'absentéisme, les grèves de rendement, les petits sabotages? Se laisser convaincre par des psychologues assermentés d'aménager les horaires, de supprimer toutes les contraintes au travail, ou presque, de libérer les initiatives. Et hop, plaisir, le désir de travailler revient comme par enchantement. Après, le mec peut clamer très fort. Je suis libéral, chez moi, c'est l'autogestion technique. Mais si tu lui dis, et le pouvoir de décision qu'il a? Il te répond, moi, c'est mon usine. Son usine, c'est vrai, c'est son usine dans laquelle il tente une expérience qu'il pourra arrêter ou poursuivre à son gré. C'est dans son usine qu'il pourra se payer des mecs comme moi pour lui servir de flic, de cavalier. Et ben moi, je lui dis merde à son système de pseudo-participation collective.
Par rapport au sujet du film, je me demandais si, avec Charles, en fait, le point de départ, c'était de prendre quelqu'un qui... C'était vraiment ça, de prendre quelqu'un qui arrête de travailler volontairement ou c'est...
Le point de départ était une fausse analyse de Charles sur lui-même, qui s'est révélée dans le film. C'est-à-dire, lui, nous, on militait à ce moment-là, on était dans un groupe Mao, et on avait un ami qui était ingénieur, qui devait tous les jours être à 8h30 au boulot, qui disait, bon, enfin, voilà, c'était quand même... Lui, il faisait des choses qui l'intéressaient, mais nous, on voyait ça, et Charles disait, ah, qu'est-ce que je suis content, moi, de ne pas avoir toutes ces servitudes, de ne pas avoir toutes ces exigences, etc. Et il voulait, en fait, parler de ça, du travail, par rapport au fait que c'est tellement mieux de ne pas avoir tout ça. Mais ce qui s'est révélé dans l'écriture, c'est que c'est peut-être mieux, mais c'est très dur aussi, et de n'avoir personne qui vous demande rien. Et de n'avoir ce qui était son cas. Parce que lui, à part dans les films qu'il a fait, à part Océanique, où il lui a été proposé, on ne lui a jamais rien demandé. C'était des choses qu'il voulait faire, et s'il ne faisait rien, personne n'allait le chercher. Et donc, dans l'écriture, s'est révélé autre chose. Et il s'est révélé... La perte des repères quand il n'y a pas de travail. Voilà, c'est ça. Après, il a donc écrit à la première personne, de façon à être au plus intime de lui-même, et il laissait aller toute son écriture comme il voulait, de là les scènes où les jours et les nuits se confondent. Et après avoir jeté ça, il m'a demandé de travailler avec lui. Donc on a continué à travailler ensemble, on avait... un peu travaillé sur RAC, mais je n'étais pas crédité au générique. Et là, j'ai vraiment travaillé à plein, quoi. Et il y a eu beaucoup de documentation, beaucoup de lectures, beaucoup de réflexions à partir de ce premier jet pour en faire autre chose que simplement un cri, quoi. Donc on a lu, on a échangé. Moi, j'ai... contrairement à ce que croit ma mère, je n'ai pas écrit que le personnage féminin. J'ai travaillé sur Jacques Rancière, sur les écrits de Jeanne Marx, sur Psychopathologie de la vie quotidienne, sur les écrits de Lefebvre, sur Lafargue, évidemment, Le droit à la paresse. Et on lisait beaucoup de choses. Et après, on introduisait dans des scènes, mais qui étaient ancrées par le fait qu'il y avait déjà... ces sentiments très forts qui avaient été exprimés. Donc ça partait pas dans tous les sens parce qu'il y avait une racine intime très forte. Et ça, c'est ce que moi je trouve vraiment bien dans ces deux films de Charles qui ont été faits de cette façon, par rapport à d'autres films où c'est l'idée qui fait ensuite fabriquer les personnages, fabriquer, alors les maisons sont parfaites, tout est là, tu sais, les petits rideaux, mais il n'y a personne dedans, quoi. Voilà.
Il y a une dimension qu'en voyant le film qui m'a vraiment fasciné, parce que j'avais revu il n'y a pas si longtemps un film qui s'appelle Invasion of the Body Snatchers, mais la version de Philip Kaufman, un film fantastique un peu paranoïaque, presque entre guillemets complotiste, alors que c'est un film fantastique. Et c'est vrai qu'en voyant pour Clémence, le début et même quelque part la fin, avec toutes les questions de surveillance, et puis t'as des personnages qui ont l'air d'être un peu au-dessus de tout le monde, qui surveillent d'autres personnes, qui commentent même, on va dire, voilà, la faune urbaine. Voilà, il y a quelque chose de très fantastique, complotiste. Et alors, ça, c'est venu comment, cette idée? Est-ce que vous en avez conscience, Charles et toi, ou pas du tout?
Bah, le mot complotiste, qui est maintenant le point Goldwyn, dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec la doxa, on dit qu'il est complotiste. Il n'existait pas, on ne s'en servait pas. Non, mais le jugement social, c'est ça, le jugement de la société sur les gens qui ne sont pas conformes, ça, on en avait parfaitement conscience. En plus, on était quand même des militants, il ne faut pas oublier. On était même dans un groupe interdit, avec des pseudos et tout ça. Donc, la société, le système, c'était quand même l'ennemi pour nous.
Il y a une scène qui est très marquante, c'est là, quand on voit leur rencontre, enfin, aux deux personnages en flashback. Ils se rencontrent, ils se rencontrent en mai 68 dans une faculté occupée, et lui, il est en train de préparer à manger pour tout le monde, et lui, il l'aide à préparer à manger. En fait, c'est quand même ce qui était en plus quelque chose qui n'était pas. Parce qu'on dit, que le féminisme n'est pas arrivé en mai 68, qu'il a fallu encore attendre plusieurs années avant qu'il y ait vraiment une évolution. Là, cet homme paraît être en avance sur son temps, quoi. Même pour un révolutionnaire étudiant en 68, il aide une femme à faire manger.
C'est elle qui prend tout en charge quand même. Elle est là, il l'aide, elle lui dit quoi faire. De toute façon, d'abord, c'est une histoire qui m'est arrivée personnellement, que je raconte dans ça, sauf que moi, j'ai eu personne pour m'aider. J'ai eu les choux-fleurs, les œufs et les gens qui arrivaient toutes seules. Et là, c'est la pensée du président Mao qui m'a aidée, parce que j'ai paniqué. Et quand j'ai vu ça, j'y arriverai jamais. Hein. Puis tout à coup, j'ai osé agir. Nanana, je me suis dit, bon, allez, faut y aller. Et mai 68 est beaucoup fait de ça, de ces gens qui ont fait quelque chose, parce qu'il n'y avait pas que loin de là, les manifs et les pavés. Hein. Mai 68, c'était tout un truc qui se mettait en branle pour que ça marche, des crèches, etc. En dehors même des paroles. Bon. À l'époque, 77. Quand on le voit repasser une robe de sa femme, la salle explosait de rire. Personne maintenant ne moufte de quoi que ce soit. C'était transgressif au dernier point. Il aurait pu repasser sa chemise, mais qu'il repasse la robe de sa femme, je te jure, je n'en reviens pas. Tu te rends compte? Et donc, y avait du féminisme, parce que moi j'étais... j'étais féministe à ce moment-là, lui aussi, différemment de moi, mais il l'était aussi. Mais faut pas croire qu'en 68, il n'y avait pas du féminisme, il n'y avait pas une organisation, puisqu'on nomme le début du MLF officiel, on a décidé que c'était la remise de la gerbe à la femme du soldat inconnu en 70, mais il y avait du féminisme quand même dans les gens. Fait pour moi le charme, vous avez compris que je suis une groupie de Charles Belmont, c'est que le fait qu'il y a un mouvement dans tous ces films, il y a un mouvement, c'est-à-dire le film nous emmène, je sais pas quel mot employer, moi je dirais groove, mais comme je sais pas ce que c'est groove, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Ces films ont une musicalité en eux-mêmes qui nous emmène du début à la fin sans coup férir, sans étouffer et sans lasser, enfin on espère la plupart des gens. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment de l'art, quoi. Alors, auquel je prends ma part puisque je suis monteuse de ces films, sauf le premier. Et c'est d'entrer dans une musicalité et puis de ne pas plus la lâcher, quel que soit le matériau employé. Et ça peut être, encore une fois, il y a même du vrai documentaire dans RAC, par exemple. Il y a des séquences de vrais documentaires intégrés, il y a des séances de fiction dans l'histoire d'art, des scénettes, on va dire. Dans Pour Clémence, l'aspect documentaire, il est retrouvé, par exemple, quelque chose que Charles a beaucoup fait, et c'est marrant parce que Salomé, dans le film le dernier film de Charles Belmont qu'elle a écrit, et qui de nous deux, il y a encore ça, regardez les gens. Les gens, ils vont pas avoir un rôle, mais on les regarde. On les regarde dans le métro, dans pour qui de nous deux, on les regarde dans le bus, dans Hack, on les regarde au café, c'est quand on ne cesse de regarder les gens, ils sont au café, les gens passent, bon, dans la rue. Il y a ce regard sur l'extérieur qui n'est ni de la fiction, ni de documentaire, on va dire, et qui inclut toujours le personnage dans sa société.
J'avais une question par rapport à Eva Darlan, parce que, en fait, j'ai l'impression de la redécouvrir dans le film. En fait. Pour les gens de ma génération, c'était une actrice comique qu'on voyait dans Merci Bernard, enfin, où c'est une actrice comique. Et si on fait quelques recherches, on découvre l'existence des trois Jeanne, mais que... Donc, était un...
Mais les trois
comiques féministes.
Voilà. Et les trois Jeanne, dont faisait partie Eva Darlan, c'était un groupe de trois femmes qui étaient féministes et comiques et très drôles. Et nous, on cherchait, enfin Charles cherchait, mais j'étais toujours pas loin, qui allait jouer Sarah. Et donc, quelqu'un, je ne sais même pas qui, parce qu'il n'y avait pas de casting à l'époque, ça ne se passait pas comme ça, il y avait des assistants et pas de casting, lui dit, ah ben il y a quelqu'un dans les trois Jeanne qui est très bien, elle s'appelle Eva Darlan, mais quand on a vu arriver les filles sur scène, on ne savait pas à quelle c'était. Mais tout de suite, on savait que c'était elle. Elle qui rayonnait, qui était tellement... enfin, belle, mais belle aussi, la peau belle, tout ça. Bon, on s'est dit, c'est elle. Voilà. Donc, Charles engagé. Elle a jamais eu un rôle assez important, mais elle a beaucoup joué, puis elle a fait ses propres spectacles. Ouais, c'est une femme de théâtre, quand même, puis elle a fait pas mal de télé. Et elle est extrêmement drôle. Moi, j'ai monté un film de Patrick Volson avec elle dans un rôle qui n'était pas le rôle, le premier rôle, mais qui était quand même important. Mais moi, je me tordais de rire, quand même. Hein. Là, elle n'a pas un rôle comique, c'est vrai. Mais elle n'a pas un rôle triste non plus. Elle a un peu d'ironie, elle a un peu de...
Sinon, il y a dans le DVD hein, qui vient de sortir, parce qu'on défend aussi la sortie du DVD. Donc, tu es à l'origine. Et d'ailleurs, ça s'appelle L'Éclaireur, pour un petit rappel. Et il y a le film, et c'est... ça c'est André Gors qui, quand il a vu le film pour la première fois, a parlé de premier film d'écologie politique. Pourrais-tu nous expliquer aujourd'hui cette formule?
On ne connaissait pas l'écologie politique du tout, ce qui fait que quand André Gors nous a dit que c'était le premier film d'écologie politique, on était comme monsieur et madame Jourdain, c'est-à-dire, ah oui, mais qu'est-ce que c'est bon. Après, on a plus connu, mais l'idée quand même qu'il voulait mettre en évidence, c'était pas seulement le fait qu'il y ait le Concorde qui troue l'ozone, mais c'est le côté politique, à savoir l'organisation. L'écologie, c'est ce qui vous entoure, quoi. C'est l'organisation, comment penser politiquement le monde, l'organisation dans laquelle on vit, quoi. L'environnement au sens social aussi et politique dans lequel on vit. À part ça, moi, ce qui m'intéresse beaucoup maintenant, c'est le fait que le travail est enfin mis en évidence, en exergue. Quand le film est sorti, les gens disaient beaucoup c'est un film sur le chômage, mais c'est pas du tout un film sur le chômage, c'est un film sur le travail. Et maintenant, le travail, c'est un mot tellement large qu'il veut rien dire, quoi. Actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de façons de parler du travail. Dans le DVD, il y a un supplément, c'est un entretien que je fais avec le philosophe Patrick Vivray, qui connaissait très bien Charles et qui décline vraiment tous les modes de travail. Mais à l'époque, on parlait travail-chômage seulement. Et s'est introduite un peu plus tard l'idée qu'il y avait travail choisi, travail contraint. Mais ça reste quand même, disons, assez sommaire, quoi. Et là, on peut maintenant parler parce que... la valeur travail qui nous a tellement mise en évidence et qui n'a pas été contestée tant que ça commence, mais pas contestée tant par les forces de gauche, par exemple, par les syndicats. La valeur travail, vraiment, maintenant, est contestée beaucoup. Et on peut distinguer, dans ce mot très large de travail, on peut distinguer métier, on peut distinguer œuvre, on peut distinguer job, on peut distinguer emploi. Et tout ça n'a pas le même sens. Et c'est ce qui... est interrogé dans le film, mais pas du tout de façon théorique. C'est uniquement que si les spectateurs le veulent bien, ils peuvent penser à tout ça pendant ce film. D'autant qu'à la fin, il recherche un travail qui pourrait paraître lui convenir, mais il ne lui convient pas, et on peut se demander pourquoi. Donc il y a des interrogations, mais qui pas du tout sous forme théorique, et en revanche, elles sont prises dans le DVD par un entretien.
Non, c'est intéressant quand tu dis que c'est un film sur le travail et pas sur le chômage. Ça me fait penser à Macron, là, bientôt, son gouvernement veut changer le nom et les modes de gestion de Pôle emploi, qui vont rebaptiser... Enfin, quand j'en parle, des fois, je dis France chômage, mais en fait, non, c'est France travail. Et l'idée, c'est de forcer les gens à travailler, quoi, mais c'est pas de prendre en compte leur mieux vivre au chômage.
En fait. Bah, en tout cas, c'est pas ça, mais Pôle emploi, c'était ça pareil, parce qu'emploi, travail, finalement, comme je disais, l'emploi fait partie du travail, quoi, de la notion. Non, mais le plus grave actuellement, avec ce gouvernement, c'est un manque de respect complet des gens, comme on a pu le constater, mais c'est que les gens au RSA vont devoir faire du travail gratuit, de 15 à 20 heures par semaine, ce qui est absurde. Rocard doit se retourner dans sa tombe, parce que les plus précaires, parce que 600 euros par mois, c'est pas... Vraiment, c'est juste pas crever, et encore, même, on peut plus louer, puisque le marché locatif est bloqué, on peut même pas se loger, quoi. Il est bloqué en France en ce moment, et je sais pas pour combien de temps. Obligés à travailler gratuitement des gens qui déjà sont... subsistent à peine, c'est absurde, parce que s'il y a du travail, il faut qu'ils soient payés. S'il n'y a pas de travail et qu'ils sont au RSA, il faut qu'ils soient soutenus encore davantage, de façon à pouvoir se remettre dans un monde qui d'ailleurs parfois n'est pas le travail, parce qu'il y a des femmes qui élèvent seules des enfants. Qu'est-ce qui va se passer si on les oblige à travailler? Qui va garder les enfants? Qui va s'occuper? Et c'est un mépris complet aussi de tous les artistes qui arrivent à créer parce qu'ils ont le RSA. Et il y en a beaucoup.
C'était Marielle Sartel pour l'édition DVD de Pour Clémence de Charles Belmont aux éditions de L'Éclaireur. Pour acquérir le DVD, vous pouvez le trouver dans certains magasins dont j'ai pas la liste. Mais vous pouvez aussi le commander sur le site de L'Éclaireur, charlesbelmont.com. Merci à Marielle et à Jean Schwartz pour la musique de Pour Clémence. On va continuer avec un entretien avec Brice Gravel des Mutins de Pangée. Les Mutins, c'est une coopérative de production, de distribution et d'édition DVD qui propose également une plateforme VOD, Ciné Mutins. Et Brice Gravel va nous évoquer la genèse des Mutins de Pangée.
Les Mutins, on est une coopérative qui font des films essentiellement documentaires, qui a été créée en 2005. En fait, les fondateurs étaient tous à Azalea TV, qui s'est arrêtée. Et à l'époque, il y avait un besoin, en fait, de à la fois produire nos propres films et toute une question sur la diffusion, parce qu'on avait quand même des soucis pour faire passer nos productions à la télévision classique, plus le circuit du cinéma. Donc, en fait, la coopérative a été créée en 2005, avec au début donc toute une partie de produire nos films et une partie édition DVD pour les diffuser. Et en fait, ça s'est vraiment lancé avec la production du film Chomsky et compagnie, qui avait été fait à l'époque sur quelque chose avec un système de financement qui était original à l'époque, qui était une souscription. Ce que maintenant tout le monde fait avec Ulule, etc. Mmh. Et donc il y avait eu une grosse souscription et une sortie en salle dans le circuit à arrêt essai. Je sais qu'à l'époque, on avait été voir des distributeurs salles classiques qui disaient que le film ne marcherait jamais, etc. Donc le film avait été distribué nous-mêmes. Et en fait, avait fait un beau carton au ciné, puis ça avait fait quasiment 50 000 entrées, avec énormément de projections débat, et plus derrière un DVD qui s'était vachement diffusé. Et donc c'est ça qui a vraiment bien lancé Les Mutins et qui nous a permis de davantage produire nos propres films et d'accentuer toute la partie édition DVD, c'est-à-dire que c'était plus seulement l'édition des films des Mutins, mais aussi on prenait des films extérieurs dont on se chargeait de faire l'édition DVD. Donc on est arrivé à un catalogue assez riche de documentaires politiques engagés et aussi pas mal de patrimoine avec des cinéastes comme René Vautier, qu'on a édité d'abord Afrique 50, ensuite le coffret sur l'Algérie. Donc voilà, il y avait toute cette partie édition DVD qui a grossi au fil du temps. Et ensuite, on a eu une réflexion sur le fait que ça devenait un peu plus compliqué aussi à terme peut-être pour le DVD, ou en tout cas qu'il fallait d'autres supports pour toucher un public plus jeune. Et c'est là qu'on a lancé une plateforme VOD en 2014, c'est-à-dire location ou achat de films sur un site, et qui aujourd'hui est une bonne part de notre activité, qui nous permet en fait de diffuser davantage de films qu'en édition DVD, parce que c'est moins contraignant, c'est plus facile de proposer, quoi. Mais on continue quand même l'édition DVD.
Ah, mais du coup, Ciné Mutins, c'est si ancien que ça? Je pensais que c'était né en 2020.
Bah en fait, initialement, c'était toute la partie VOD était adossée à notre site Les Mutins de Pangée. Et là, il y a 2 ans, on a vraiment basculé. On a fait un site à part Ciné Mutins, quoi. Mais la VOD en tant que telle a commencé en 2014. Mais là, maintenant, c'est vraiment une plateforme VOD à part Ciné Mutins depuis 2021.
Moi, j'ai 2 questions, hein, un peu bêtes. C'est, la première, c'est peut-être tout quand même qui se présente. Qui il est et comment tu es arrivé dans l'aventure des Mutins de Pangée, puisque tu dis que tu n'es pas non plus là à l'origine. Donc, ce serait intéressant ta rencontre, comment elle s'est effectuée. Et l'autre question, c'est d'où vient le nom Les Mutins de Pangée?
Les questions qu'on nous pose toujours sur les différentes tables qu'on tient. Donc, oui, donc moi, je suis Brice Gravel et je suis arrivé il y a 8-9 ans, je dirais. C'était à l'époque, je cherchais un stage, je sortais de mes études, et donc j'avais postulé pour faire un stage sur le documentaire d'Olivia Zam et Daniel Mermet, Howard Zinn, une histoire populaire américaine, qui était en cours de fabrication, et en fait ils cherchaient quelqu'un pour donner un coup de main sur la partie recherche d'archives. Et donc je suis rentré comme ça, il y avait beaucoup d'archives américaines, beaucoup de recherches et de négociations de droits des archives, donc je suis rentré comme ça en stage. Et ça a bien roulé, et donc ensuite j'ai rejoint officiellement la coopérative. Et depuis, de mon côté, moi je m'occupe pas mal de la partie VOD. Si l'édition, en fait, tous les membres des Mutins, on est 5, on fait tous un peu à la fois, on fait des films, on fait de l'édition, on est multitâche quoi en fait pour survivre dans ce dans cette économie économie compliquée. Personne n'est vraiment n'a des rôles définis quoi. Et donc les mutins de Pangée, bon bah les mutins. Bien que maintenant on nous demande, avant on nous demandait toujours qu'est-ce que c'est que la Pangée. En fait, la Pangée c'était la terre avant la séparation des continents. Donc les mutins, mutinerie, voilà, c'est un nom un peu compliqué. Nos titres qui ont eu le plus de succès à peu près, quoi. Ouais. Donc Chomsky et compagnie, ça c'est vraiment le titre qui a eu le bon succès. Howard Zinn, une histoire populaire américaine, ça avait vraiment bien marché en salle. Quand je dis bien marché, c'est que ça avait fait 30 000 entrées, et quand on dit aujourd'hui il y a un documentaire qui fait 30 000 entrées en salle, bah, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'à l'époque c'était le 5 ou 6e documentaire le plus vu sur des sorties salles de l'année. Sorties documentaires, donc c'était quand même pas mal. Et après en édition, bah, René Vautier, c'est quand même un titre phare du catalogue, et ça a très bien marché en édition. Et La Commune, le coffret La Commune, les conférences d'Henri Guillemin sur la Commune de Paris, ça c'était un très très gros carton d'édition. On est quasiment au bout du tirage.
Est-ce que c'est y a des cinéastes militants comme des guides politiques ou des mantras personnifiés? Donc en effet, Bruno Muel, René Vautier, les groupes Medvedkin, Chris Marker reviennent souvent.
Pierre Carle aussi.
Pierre Carle.
Ouais.
Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un mot comme ça pour ces sortes de piliers qui reviennent, que vous suivez avec à la fois on sent admiration, mais aussi des valeurs morales, politiques?
Bah, en fait, c'est tout ce qui a été cité, que ce soit les groupes Medvedkin, Vautier, ça c'est un peu tout le patrimoine du cinéma engagé dans lequel nous on s'est toujours inscrit au Mutin de Pangée. Et où on a fait justement ce travail d'édition, c'était de faire que ces films puissent être visibles, qui tombent pas dans l'oubli. Et surtout de faire des coffrets pour avoir aussi une documentation avec toute la partie bouquin, etc. Enfin, vraiment une espèce de travail d'éducation populaire un peu sur ces cinéastes. Et en fait, c'est tout notre héritage, si on dit les groupes Medvedkin, Vautier, la Commune de Paris, tout ça. Bon, on situe bien où on est, nous les mutins. Et après, l'idée de l'édition, c'était aussi de ne pas rester uniquement dans le patrimoine, mais d'avoir aussi des... Bah, promouvoir un peu le travail de cinéaste. T'as cité Nicolas Drolk, qui est vraiment quelqu'un qui fait un peu... qui est hyper surprenant. Il fait tout avec tout lui-même. Et La Mort se mérite, le documentaire qu'il a fait sur Livre Rosé, c'est quand même un magnifique film. Et donc là, on arrive en tant qu'éditeur, c'est vraiment pour... justement, pour que ce film soit visible, parce qu'on sait qu'en salle, c'est compliqué. Et surtout que ça reste, en fait. C'est que... On parlait de la VOD tout à l'heure. Nous, l'idée du DVD, c'est que... C'est des choses qui restent dans le temps, en fait. Qui dans 10 ans, les gens auront toujours leur coffret, et puis nous on est vraiment dans le truc de j'achète un coffret, je le prête à un copain qui peut. Enfin, de transmission et de partage que permet l'édition DVD. Et après, bah, Pierre Carle, nous c'est un ami de toute notre bande, on se retrouve vachement sur son travail de critique des médias, c'est pareil. Enfin voilà, on est tout un petit milieu, on n'est pas forcément beaucoup sur cette ligne-là, mais voilà, c'est un ensemble de valeurs qu'on défend, des cinéastes qu'on aime bien, et que ce soit en VOD ou en DVD, on essaye de promouvoir ce cinéma-là, dont la place est quand même de plus en plus difficile au cinéma en tant que tel, en fait. Y a encore des créneaux dans le circuit RSM, mais on sent que ça se tend un peu, c'est de plus en plus compliqué, à la fois de produire des films politiques comme ça, et à la fois toute la diffusion en salle, quoi. Donc nous c'était vraiment important sur le patrimoine, c'est quand même sur le DVD, c'était notre ADN de sortir des... Donc là on a parlé des groupes Medvedkin, on a parlé de Vautier ou de La Commune, qui sont vraiment La Commune, Henri Guillemin, ça c'est des titres phares. Mais par exemple Paysanne, le coffret Paysanne, c'est une série de Gérard Guérin, qui à l'époque avait été voir en fait trois générations de femmes paysannes dans le Larzac, et avait fait une série pour la télévision française. Donc, et en fait, on a découvert ça sur les conseils de Gérard Mordilla. C'était sur Lina, en fait. C'était absolument inconnu, et on a vu ça, on a trouvé ça... Enfin, c'est vraiment... C'est magnifique, c'est incroyable de se dire que la télévision a pu produire ça à l'époque. Et donc là, c'est vraiment un travail, on part de... Personne connaît, et c'est un travail d'édition où on édite, on récupère les masters, on édite le film avec un bouquin. Olivier et Laure ont été voir Gérard Guérin pour faire un entretien avec lui... Enfin voilà, ça c'est un travail de dénicher des petites perles rares comme ça, et d'essayer de les faire connaître. C'est un travail d'édition où on part de rien, d'un produit quasiment inconnu, quoi.
C'est les femmes qui s'occupent de la nourriture. C'est les femmes qui s'occupent des vêtements. Oui. C'est les femmes qui s'occupent aussi de quelque chose dans la maison quand même. Chaque fois, il fallait dire aux hommes, dites-le moi sans prendre, dites-le moi de s'en prendre.
Et je suis à me demander si les hommes, des fois, ils réalisent bien les dépenses qu'on concerne le linge, comme
ça,
ou le ravitaillement. Hein. D'accord, cette année, ça va, d'accord, mais l'an passé, alors... Hein.
Ils ne s'en rendent pas compte en faisant comme ça.
Ben oui, ils ne s'en rendent pas compte.
Ici, dans le village, d'après, on entend parler d'un état libre, vous parlez entre nous, les femmes et tout, hein. Je me demande s'il y a une seule maison, que ce soit les hommes qui gèrent le porte-monnaie. Je crois pas, hein.
Je crois pas, je crois qu'il y en a aucune maison.
Oh, non. Ici, je crois que c'est partout les femmes qui gèrent le porte-monnaie.
Il y a des liens, vous avez des liens souvent avec des éditeurs, en fait, je pense à Agone.
Ouais, on est très proche de Agone, bah, notamment sur le Warzine, une histoire populaire américaine, parce que c'est Agone qui avait édité le livre, la version française du livre, et donc on est très proche de la ligne éditoriale même de Agone, et on collabore souvent sur des projets avec eux, et sur Zine, je sais que Thierry DiCepolo avait donné un bon coup de main sur la production du film, il avait participé à des débats au moment de la sortie. Et même sur Chomsky, c'est pareil, c'est l'éditeur français de Chomsky.
Et du coup, sur la partie, quand il y a un livre, en fait, c'est possible. C'est, des fois, c'est pas des co-éditions avec Ago.
Non, c'est plutôt. On fait une partie. Bon, c'est soit des livres, soit des livrets denses, on va dire. Mais on n'a pas fait sur les bouquins. On a fait une co-édition, ça s'appelle Des Voix Rebelles, qui étaient des textes édités par Agone. De grands rebelles de l'histoire américaine et où le film était nous, on s'occupait de la partie édition du film. Donc ça peut nous arriver d'avoir des collaborations quand même. Mais on va de plus en plus sur des coffrets livres DVD justement pour avoir un vrai contenu et un vrai apport éditorial en plus du film en tant que tel. Quoi.
Enfin, vous continuez toutes les activités par rapport au cinéma, l'édition DVD, où il y en a certaines qui ont pris plus le pas sur d'autres. Je parle peut-être de la distribution en salle, c'est peut-être plus compliqué. Je sais rien.
Ouais, alors la distribution en salle, on l'a fait nous ponctuellement, mais là on le fait plus parce que c'est vraiment un métier à part entière. Et on travaille beaucoup avec les films des Deux Rives, qui est une petite boîte de distribution basée à Montpellier. Donc ça, toute la partie distribution salle, on a arrêté. La production, on a toujours... En fait, nous, Les Mutins, ça a quand même été créé de base pour... Le but, c'était de pouvoir produire nos propres films... Et toute l'activité d'édition est venue après, et aussi pour permettre d'avoir une activité permanente, parce qu'on s'est rendu compte qu'on mettait beaucoup de temps à produire et à faire nos films. Donc c'était un peu... et après, l'édition a pris un peu... L'édition DVD a pris le dessus, la VOD. Maintenant, globalement, l'édition DVD, on fait moins d'éditions, mais par contre, on fait des objets plus denses, beaucoup de livres DVD ou coffrets. La VOD prend de plus en plus d'importance parce qu'on est de plus en plus sollicité aussi pour diffuser des films sur la plateforme. Et sur nos films, on a toujours 2-3 films en chantier, en production, qui là clairement, il y a la suite de Warzine qui est toujours en chantier, parce que là, c'est pareil, c'est des questions d'archives au niveau des États-Unis, donc c'est très long, très compliqué, mais ça avance. Olivier Azam, mon collègue, a un projet avec le musicien André Mainviel sur la Mainviel à roue, donc ça avance bien. Et moi, là, par contre, je finis la production d'un film, et quand je disais que c'était long, nos films à produire, c'est que le premier tournage était en juin 2017. Donc ouais. C'était il y a 6 ans. Et là, il sort en salle en octobre de cette année. Donc voilà, on est sur du 6 ans pour faire le... entre le premier tournage et la sortie de salle. Bon, avec quand même 2 ans, on va dire, pollués par le Covid. Mais globalement, c'est à peu près notre temps de production des films. Ce qui, à la fois, c'est long, mais en même temps, ça permet de faire des documentaires qui s'inscrivent dans la durée. Et ça permet, c'est un peu aussi le moyen de faire nos productions de façon la plus libre possible, en fait.
Et souvent, il y a un engagement politique qui est concret, en fait, quoi. Il y a un soutien aux caisses de grève.
Ouais, alors ça, c'est qu'on avait déjà fait en 2019, la première réforme des retraites de Macron, en fait, on s'était dit que bon, il y avait quand même une bonne contestation qui s'était mise en place en France. Et on avait réussi à démarcher justement, on parlait de Pierre Carl, donc CP Productions, plus d'autres producteurs indépendants, distributeurs. pense des gens comme Gilles Perret qui avait bien soutenu la démarche à l'époque notamment. Bref, que tout créer un ensemble de gens qui sont proches de nous, qui prennent la décision en fait de mettre leur film à disposition des caisses de grève pendant la période de la lutte. Et donc ça s'organisait très concrètement, c'était des comités de grève, des assos, tout ça, qui organisaient des projections à prix libre en fait, et l'intégralité des sommes qui étaient récoltées pour ces projections étaient reversées directement aux caisses de grève, quoi. Ce qui permettait, au-delà des sous récoltés, ça permettait aussi aux gens de se rencontrer, de débattre de questions politiques qui étaient soulevées par le film projeté, etc. Donc ça, on l'avait fait en 2019, jusqu'à ce que tout s'arrête avec le Covid. Et là, on l'a relancé dès janvier, quand il y a eu nouvelle réforme des retraites et la contestation qui s'est organisée. Et je crois qu'en 2019, on avait récolté à peu près 40 000 euros le temps de... 40 000 euros qui avaient été récoltés pour les caisses de grève. Et là, on a remis ça en janvier. Et là, ça... Et donc, on a récolté... Il y a eu quasiment 700 projections qui sont organisées. On a été assez vite débordés, en fait... par l'initiative, c'était assez énorme, qu'on était vraiment contactés tous les jours. Et de ce qu'on sait, parce qu'en fait, nous, on ne voyait pas l'argent, c'est les gens reversaient directement, mais on demandait de nous tenir au courant de combien était récolté. On a dépassé les 150 000 euros qui ont été reversés aux caisses de grève, quoi. Et on trouvait que c'était un bon moyen, à la fois que les gens se retrouvent, débattent, et en même temps qu'ils aient participé au mouvement de solidarité des caisses de grève, quoi. Donc là, c'est une application concrète de comment est-ce qu'on peut mettre à disposition notre... travail autour du documentaire pour une lutte qui rentre complètement en résonance. Enfin, je pense par exemple Olivier Azam qui avait fait un film sur Grand Puits et Petite Victoire, qui était un film sur la lutte contre des raffineurs de Grand Puits à l'époque de la réforme des retraites de Sarkozy. Là, le film a été beaucoup rediffusé dans les cadres des caisses de grève parce que ça faisait écho. Enfin, voilà, il y a eu un bel engouement pour ce système de projection au soutien aux caisses de grève on pensait pas que ça allait prendre autant quand même.
Non, puis il y a une newsletter aussi, moi je l'ai lu tout.
Ouais, alors ça, on essaye une par semaine à peu près.
Ouais.
C'est un peu notre moyen de communication. Bon, on est quand même sur les réseaux sociaux classiques, tout ça. Mais on a depuis le début, en fait, il y a un système de newsletter avec un vrai. Il y a un travail éditorial qu'on fait sur cette newsletter. Et on reçoit beaucoup de réponses à cette newsletter. Enfin, il y a une espèce d'échange avec notre public qui est assez sympa. C'est assez sympa et c'est un bon moyen de communiquer pour nous dans ce monde où on est un peu noyé par toutes les infos, les sorties, tout ça. Enfin, on essaye de créer un vrai lien avec notre public. Et le meilleur lien pour nous étant quand même quand on sort un film en salle, quand il y a des projections, débats, tout ça, enfin d'aller à la rencontre du public, ou quand on a un stand à la fête de l'UMA. Parce que bon, la VOD, tout ça c'est bien, mais c'est quand même bien de se retrouver autour d'une projection et de discuter, quoi.
Bah, peut-être qu'on peut glisser un mot sur Bruno Muel, qui nous a quitté il n'y a pas longtemps, mais comme vous avez quand même bien suivi son travail justement avec le partenariat avec ISRA et tout, peut-être que si tu as des choses que tu as envie de dire sur son cinéma.
C'était un. Grand monsieur du cinéma. Et les groupes Medvedkin, c'est quand même un des piliers des groupes Medvedkin. Et nous, la dernière fois, donc on a travaillé avec lui sur le coffret Les groupes Medvedkin, et on peut se dire, il était plus tout jeune, et ça pouvait être. C'était une réédition, parce que les films avaient été un peu édités de façon disparate. Là, c'était vraiment l'édition en coffret. Et il était tellement impliqué sur l'édition, mais sur la jaquette, sur les photos. Enfin, c'était assez incroyable. Vraiment un cinéaste passionné, passionnant. Et enfin, moi, je conseillerais vraiment aux gens de voir ne serait-ce que Septembre Chilien, son film qui est en VOD sur Cinémutin. C'est vraiment... c'est à la fois du cinéma militant et niveau prise d'image, c'est quand même incroyable. Chef opérateur assez incroyable. Et toute l'histoire des groupes Medvedkin, de toute façon, c'est incroyable. C'est un peu les cinéastes qui vont à la rencontre des ouvriers de Sochaux et Besançon. Et cette rencontre qui donne lieu à des films absolument, absolument incroyables.
Et c'était assez beau aussi, d'ailleurs, les films qu'il a fait après mai 68, qui sont plus... enfin, des films aussi qui ne sont pas utopistes, quoi, qui racontent que... pas un échec, mais ouais, une désillusion. Je trouvais assez juste.
Bah, il est, ouais, puis c'était. Enfin, nous, je sais qu'Olivier est en contact régulier avec Christian Courrouge, qui est l'ouvrier de Sochaux, qui a bien connu Bruno Muel. Il continue à tourner régulièrement avec Christian. Et c'est, en fait, c'est incroyable, toutes ces histoires des années. Histoire d'usine des années 70, et quand le cinéma rencontre l'usine, enfin, ce que ça donne, c'est. Enfin, c'est vraiment du très grand cinéma, et cette réédition en coffret pour nous des groupes Medvedkin, c'était vraiment. Enfin, ça faisait tellement sens par rapport à tout ce qu'on défend, qu'on était vraiment content de le faire. Mais c'était un grand monsieur, ouais. Et Iskra, dans son catalogue, au-delà des films de Bruno Muel, c'est un peu la référence de ces films des années 70, Chris Marker, tout ça, ils ont vraiment des pépites dans leur catalogue. Ils font vraiment un travail, enfin, ils ont fait un travail formidable et ils continuent à défendre ça. C'est assez impressionnant.
Cette voie que nous n'avons pas choisie, que le peuple chilien n'a pas choisie, elle nous est imposée par les faits et tous nous l'assumerons. Nous avons totalement conscience que c'est cela notre avenir.
Quiero dejar constancia de que la junta militar.
Je veux établir clairement que la junte militaire n'est pas une dictature militaire et ne recèle aucune ambition politique.
Llegar a derrocar un gobierno constitutionnel.
En arriver à renverser un gouvernement constitutionnel fut pour nous le plus grand problème.
Prennent aux pauvres. Mais une phrase revient commune à toutes. Ceux qu'ils prennent, ce sont les travailleurs. Après 7 heures, il paraît qu'on fusille. La gauche chilienne, elle, n'est pas morte. Ils ne l'ont pas détruite, parce que pour la détruire, il leur faudrait tuer des millions de Chiliens. Et ça, c'est impossible.
Y eso es imposible.
Mais souvent, il y a quand même une sortie DVD. On essaye de l'accompagner de projections en salle aussi, que ça soit pas juste. Je pense le dernier cas, par exemple, on a fait un coffret Hacking Justice sur Julian Assange. Et là, on a fait carrément. Au début, ça devait être juste coffret avec le film et un livre. Et c'est à l'Espace Saint-Michel, Claude Gérard, qui était le gérant de l'Espace Saint-Michel, qui nous a dit « Non mais attendez, il faut absolument que vous fassiez une sortie en salle en même temps. Moi, je prends le film. » Et donc là, ça nous a permis, on a sorti le DVD, et on a fait 2 semaines à l'Espace Saint-Michel avec des projections débat quasiment tous les soirs qui permettent d'échanger aussi avec le public, qui sont au-delà du simple travail d'édition, en fait. Et nous, ce qu'on défend toujours, c'est quand même la projection publique. Que ça soit dans des cinémas, là on a vu avec les caisses de grève, en fait il y a plein de lieux très dynamiques aujourd'hui où qui passent des films qui sont pas des salles de cinéma estampillées art et essai, en fait, qui peuvent être des MJC, des salles communales, enfin il y a plein de possibilités de projeter des films ailleurs qu'au cinéma. Et là pour les caisses de grève, donc il y a quelques cinémas qui ont joué le jeu, mais 80% des 90% des projections, c'était dans des lieux dits alternatifs, en fait.
C'est marrant ce que tu dis sur le réseau parallèle, parce que bah, dans la même émission on interroge Marie-Alice Artel, qui a co-réalisé Histoire d'art pour le film militant sur le droit à l'avortement, il a été censuré, mais du coup, en 73, il a eu une programmation que dans les espaces, comme des lieux parallèles, quoi. Et j'ai l'impression que c'est. Enfin, j'ai lu une interview de Vautier où il disait qu'après 81, tous ces espaces-là de liberté, ils avaient disparu. Mais c'est, je suis content qu'il y en ait de nouveaux, quoi, en fait.
Bah, en tout cas, là, sur la partie caisse de grève, on a été très agréablement surpris de voir que. Quand il y a des films comme ça à disposition des caisses de grève, qui n'étaient pas c'était des demandes qui venaient vraiment de partout et pas juste des grandes villes en France, quoi. C'était vraiment sur. On pouvait faire la carte de France des projections qui a lieu, c'était un peu partout. Les gens s'en emparent et trouvent un lieu ou des lieux qui existent déjà, dont on ignorait l'existence, même des assos qu'on ne connaissait pas, qui disent on le fait. et des fois qui nous remontaient des soirées à 1000 euros récoltés sur une projection pour les caisses de grève et tout. Enfin, vraiment une bonne dynamique et ça nous a bien reboosté parce qu'on s'est dit en fait, au-delà du circuit officiel de cinéma, il y a quand même plein de choses qui se passent et le but final c'est de diffuser des films, discuter, enfin se retrouver quoi. Et on pense que c'est quand même assez dynamique malgré tout quoi. Mais ce qui n'empêche qu'on revendique quand même le droit, nous, enfin on essaye, on continue à défendre le fait que sortir nos films dans des conditions comme des sorties normales, parce qu'on estime qu'il y a une diversité du cinéma et qu'il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas notre part aussi dans les sorties salles. En fait, y a un réseau de salles RSC en France qui est quand même très riche par rapport à d'autres pays. Il y a des salles qui continuent vraiment à se défoncer pour faire une programmation diverse, variée, et qui continuent à nous inviter, et nous on défend ça aussi quoi.
Déjà, il y a de moins en moins de place pour l'actualité DVD, on va dire, dans les journaux. Mais vous, comme vous êtes aussi sur quelque chose d'engagé, militant, il se trouve que je lis des journaux, enfin je lis mon diplomatique, donc j'ai une chance supplémentaire d'entendre parler de vos éditions.
Ouais, bah c'est vrai que nous, on est un peu à part, parce qu'on n'est pas juste sur de la cinéphilie pure, et on est quand même bien ancré dans le réseau militant. Et là, tu parlais du monde diplomatique, bah c'est sûr que nous, sur la ligne éditoriale, on est très proche du monde diplo. Dès qu'on fait une sortie en salle, on le fait en partenariat avec les Amis du Monde Diplo, qui est quand même assez actif pour justement organiser des projections un peu partout. On essaye en fait à chaque fois d'avoir des associations politiques militantes qui soutiennent un peu nos sorties, parce qu'on vient de ce monde-là, la ligne éditoriale elle est proche en fait. Et nous, la partie film, c'est une contribution un peu à ces réflexions et à ces combats en fait. Et sur le diplo, même là on a fait un partenariat récemment avec Politis, enfin il y a plusieurs, il y a quand même toute une partie de presse engagée, on va dire, qui nous soutient. Et après, en effet, sur la presse, il y a moins d'espace pour le DVD qu'il y a 10 ans, mais parce que la VOD est en train de prendre un peu le dessus. Je pense qu'il y a quasiment presque plus de rubriques spécialisées DVD dans la presse, ou très peu quoi.
Ah ouais,
hein.
Très très peu.
Ouais.
Si
l'IBI
parle d'un DVD par semaine,
ouais, grand maximum à mon avis quoi. Après, nous sur la presse traditionnelle entre guillemets, on n'a jamais eu non plus une exposition de cette presse-là démentielle, on va dire.
J'ai l'impression que le documentaire c'est une forme qui est plus adaptée au cinéma actuellement. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens quand ils vont en salle c'est pour des rencontres. Et le documentaire, c'est pas très très bien des rencontres.
Il y a beaucoup. En fait, il y a beaucoup de. De toute façon, toute la sortie de films documentaires en salle, il n'y a pas une sortie qui se fait sans une tournée d'accompagnement. Ce que nous, on sait, enfin, on bloque dans nos calendriers, sur un film, c'est, je sais pas, 80, 100 débats un peu partout, ce qui est super, en fait, d'échanger directement. Là où c'est plus dur, je pense, aujourd'hui, c'est qu'avant, il y avait quand même, au-delà d'une sortie salle où c'était des rencontres avec le public, il y avait des salles qui prenaient les films en continuité, c'est-à-dire qui le projetaient sur la semaine de sortie, qui pouvaient faire deux, trois projections par jour du film. Maintenant, on voit que l'espace du documentaire est de plus en plus cantonné à des projections uniques où, du coup, on peut pas toucher tout le public, puisque s'il suffit de... Le bouche-oreille dans une ville peut pas se faire, puisque s'il y a une seule projection, c'était super, maintenant rendez-vous dans 4 mois pour la VOD en fait. Donc ça, on sent que ça s'est un peu durci quand même à ce niveau-là. Et après, il y a de plus en plus de documentaires qui sortent malgré tout en salle, donc ça reste dynamique. Je pense que nous, on est assez optimiste malgré tout sur si c'est pas dans un circuit traditionnel de sortie salle, on trouve qu'il y a un dynamisme très fort de lieux alternatifs, tout ça. Donc je pense qu'on continuera nous à pouvoir aller présenter des films et en discuter avec le public en fait. On voit pas non plus l'avenir sur juste des gens qui sont en VOD chez eux et qui regardent des films tout seuls dans leur coin quoi.
Oui, mais en même temps c'est vrai que ça se ressent. Même l'origine d'un émetteur de Panger, c'est le terrain. Donc, et je pense même que vous allez peut-être y revenir au-delà même du cinéma. Moi, j'imagine très bien, pourquoi pas que ça se transforme, si on est tous chez soi à regarder des films, si c'est de moins en, on va moins en moins en salle ou je sais pas quoi, va peut-être faire revenir à des formes plus précaires comme le journal, quoi. Genre en commune, quoi. C'est...
Après, nous, la VOD, on l'a pensé depuis le début comme un moyen de mettre en avant des films qui n'étaient pas forcément connus. Et aussi, toujours en disant, si vous voulez organiser une projection, vous nous contactez et on vous met en lien avec les ayants droit des films. Ce qui marche beaucoup, en fait. Chaque semaine, on a des assos qui nous contactent en disant, j'ai vu tel film sur Cinémutin, on voudrait organiser une projection. Et nous, on se sert de relais un peu pour que les, bah, que les films ensuite soient projetés, quoi. C'est pas une fin en soi que le film soit diffusé en VOD, quoi. Enfin, voilà, on essaye d'être un peu édition DVD, VOD, puis après un peu en salle, circuit classique, projection hors salle... un peu sur tous les fronts de... pour essayer que les films soient vus au maximum, quoi.
Ouais, peut-être finir. Je sais pas si on a les éditions récentes que vous avez fait, je sais pas si on a tout parcouru.
Bah la dernière en date, c'était c'est pour ça que c'est marqué partout Pétain, c'est que c'était c'est pas qu'on est pétiniste, mais c'est en fait c'est la suite de la commune, c'est l'affaire Pétain. Donc c'est toute l'histoire de Pétain mais par Henri Guimin et donc le plutôt Hitler que le Front populaire, le sous-titre assez d'actualité. Et donc c'est exactement le même, c'est des conférences d'Henri Guimin qui donnait à la télévision suisse à l'époque, je crois que c'est en 1979 81, celle sur Pétain, et c'est vraiment génial, ça s'écoute d'une traite. Donc c'est un coffret, et pareil avec le bouquin qu'avait fait Guimin à l'époque sur ça. Donc ça c'est la dernière édition, et après qui arrive, il y a le coffret Vautier notamment, qui est vraiment notre gros chantier depuis 2 ans. Donc voilà, on fait
Vautier-Bretagne,
ouais. On fait moins d'éditions, mais plus gros, plus qualitative, plus de contenu. Et après, on a aussi un coffret sur Jocelyne Saab, qui est une cinéaste libanaise.
Ah, c'est bien,
vous sortez... On le sort, ouais, pareil, pour la fin d'année, début d'année prochaine.
C'était Brice Gravel des Mutins de Pongée. Nous avons entendu des extraits de Paysanne de Gérard Guérin et de Septembre Chilien de Bruno Muel que vous pouvez tous les deux trouver en DVD ou en VOD sur Cinémutin, cinémutin.com. Brice Gravel vient de réaliser un documentaire qui sort en salle, Des idées de génie, sur le patron de Jiffy et Tati, Philippe Ginestet. Il y a une avant-première au Grand Action le mardi 30 mai à 18h en présence de Brice. C'est dans le cadre du festival Entreprise directe. Eh bien, merci à Brice Gravel. On va se quitter en musique. Et à la semaine prochaine.
C'était un beau pays que je ne nommerai pas. On y passait 30 mois ou de vie à trépas. Ou de vie à trépas. C'était un beau pays, près de la Tunisie, mais à cause des ciseaux de Dame Anastasie, de Dame Anastasie. Je ne peux le nommer, apprenez toutefois qu'on y perdait nos temps en même temps que la foi, qu'il y avait du sable, des pitons et des rocs, et que ça n'était pas non plus loin du Maroc. Nous aussi nous marchions, et parfois ventre à terre, on dit crapahuté en langage militaire. Oui, nous aussi marchions profondément humains, des beaux mots plein la gueule, des fusils plein les mains, des fusils plein les mains. Seulement à cette époque, et les temps ont changé, on disait d'un chanteur qu'il était engagé, qu'il était engagé. Qu'en fais-tu d'un treillis et de chaussures à clous? Il était comme nous dans la merde jusqu'au cou, dans la merde jusqu'au cou. Que faisaient en ce temps les rythmeurs condottières qui grippaient au Vietnam à l'abri de leurs frontières? On n'entendait alors qu'un sinistre silence, aucune chansonnette pour faire des turbulences.
car eux aussi marchaient. Et parfois ventre à terre, on dit crapahuté en langage militaire. Oui, eux aussi marchaient profondément humains, des beaux mots pleins la gueule, des fusils pleins les mains, des fusils pleins les mains.
Ouvriers malades, qui n'ont pas les moyens de s'arrêter de travailler parce qu'ils sont payés à l'heure. Pour la main ensanglantée par la machine, par ces rythmes qui s'accélèrent et épuisent notre attention. Pour ces cadences qui nous éreintent jusqu'à la crise tonnerre. Et ces usines qui nous jettent quand on n'est plus bon à rien. Merci, cadence. Sordide, où s'entassent les misérables, les parias, les exploités. Par tout ce luxe superflu qui éclabousse autour de nous les vitrines, vides de nos yeux perdus. Pour nos salaires, faut mendier le nécessaire. Alors que c'est nous, bon Dieu, les créateurs de richesses. Merci, société. Tous ceux qui veulent combattre et qui se retrouvent au matin licenciés. Pour les copains qui continuent cette lutte, pour que chaque jour change un peu notre vie. Et tous ces gueux, quand ils réclament plus de justice, on leur fout à la gueule qu'ils sont subversifs. Merci, justice. Ouvriers et paysans, on dit qu'on a les mêmes dents de délinquants. On nous a roulés, vendus, marchandés, trompés, trahis. Nous n'avons bouffé que des copeaux toute la vie. Mais si nous prenions une arme avant de nous coucher, peut-être que demain quelque chose aurait changé. Merci, révolution. L'aliénation à petite dose, l'arbitraire du chef haillon ou la mort lente par les cadences. L'ordre, c'est la servitude pour des millions d'hommes qui
de leur rude labeur font vivre dans l'abondance une poignée d'exploiteurs.
Mais ces appels alors, de qui nous viennent-ils ? Ils viennent de ceux qui nous gouvernent, élevés dans l'échelle de père en fils, pour maintenir leurs privilèges.
Cet ordre, c'est pour des cerveaux de bas étage, des commères de palier, des branleurs de pissotières, des corridors de sectaires. Sclérosés, cerveaux en crasse, masturbés de télévision, siffleurs d'affiches pour cul de cellulite, la brosse à dents, je t'en fiche.
Ça crache de la gueule, d'arguments dilués le soir, le sourire charmeur d'une vache de soupiquerie, distillant par les pourrisseurs de ses mamelles.
L'ordre, c'est la misère que l'on voit autour de nos villes, où des milliers de déportés viennent dans notre pays goûter le charme de nos foyers-cercueils. L'ordre, c'est peut-être votre justice qui donne 4 ans de prison pour avoir tué un homme et 5 mois à une mère de famille pour un chèque sans provision de 78 francs.
Et c'est au nom de l'ordre et de la terreur, chenille d'urne, véreux du bulletin de vote, qu'avec vos collaborateurs malhonnêtes, vous maintenez vos privilèges.
Avec ton char, qu'est-ce que tu fous sur mon champ ? Derrière les murs des casernes, dans les camps, attention l'armée. Il y a des commandos qui s'entraînent, il y a des fusils qui sont chargés. Derrière les murs des casernes, dans dans les camps à tension armée. Intoxication quotidienne. Il y a des cerveaux qui sont dressés par des fachos montés en graines d'officiers rêvant d'un 13 mai. Hé, hey, toi, avec ton char, qu'est-ce que tu fous dans ma rue? Dans les plans de l'armée moderne, on parle d'émeutes à Maté. Et les villages que l'on cerne sont des villages bien français. C'est Monsieur Thiers qui nous gouverne. À bas l'armée des Versaillais. Derrière les murs des casernes, dans les camps, attention l'armée. À Margival, Angers, Kellerne, la guerre civile est déclarée. Derrière les murs des casernes, dans les camps, attention l'armée. Derrière les murs des casernes, dans les camps, attention l'armée. Derrière les murs des casernes, dans les camps, attention l'armée.